Merci de prendre place. Bonjour à tous et à chacun, et bienvenue en particulier à ceux qui nous visitent. En ce dimanche des rameaux, je voudrais méditer avec vous ce qu'on appelle le procès de Jésus devant Pilate. Et je vous propose de lire avec moi l'ensemble de ce récit tel que nous le trouvons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 18 à partir du verset 28. Les huissiers et les chefs du peuple conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit : Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas amené. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit. Il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, « voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, tous s'écrièrent, « Non, pas lui, mais Barabbas !» Or, Barabbas était un brigand. Alors Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait, « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau, et il dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, Voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent : Crucifie, crucifie ! Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas de crime en lui. Les Juifs lui répondirent : Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus : D'où viens-tu ? Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit : Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher ? Jésus répondit : Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient : Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, en hébreu Gabbata. C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs : Voici votre roi. Mais ils s'écrièrent : Hôte, hôte, crucifie-le ! Pilate leur dit : Crucifierai-je votre roi ? Les principaux sacrificateurs répondirent : Nous n'avons d'autre roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus a été condamné à mort par le Sanhédrin, le tribunal religieux du peuple d'Israël. Mais depuis que ce peuple est sous la domination romaine, il a perdu le droit d'exécuter les sentences capitales. Le peuple doit donc livrer Jésus à l'autorité païenne, alors représentée par Pilate, le gouverneur romain. On voit au début du récit que les chefs du peuple refusent d'entrer dans le prétoire. Effrayante hypocrisie de ces ministres de la religion qui, la haine au cœur, s'apprêtent à commettre le plus odieux des crimes et se font un scrupule d'entrer dans une maison de païens. Quelle disproportion! Quelle honte pour des chefs religieux d'être dans une aussi monstrueuse contradiction. Pilate sort donc à la rencontre des chefs du peuple, puisqu'ils n'ont pas voulu entrer dans le prétoire. Cette condescendance pour des scrupules qui devraient certainement lui paraître sans aucun sens, et avec peu de respect pour lui, cette condescendance de Pilate révèle chez ce gouverneur une crainte des Juifs. Crainte à cause de ce que ces Juifs pouvaient rapporter à l'empereur et des accusations qu'ils pouvaient porter à Rome contre lui. Cette crainte va être un des éléments importants de cette confrontation. Tout au long cette crainte va se manifester. Première étape de ce procès, entre guillemets. La question de Pilate au chef du peuple. Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Question naturelle, question normale. De quoi cet homme est-il accusé pour que vous le présentiez devant moi pour obtenir sa condamnation ? Mais les membres du Sanhédrin trouvent encore cette question trop exigeante. Ils veulent que le gouverneur les croie sur parole et leur livre l'accusé sans examiner le fond. Il n'a qu'à confirmer, sans autre, leur sentence. Et ils répondent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas amené. » Un malfaiteur. Comment ose-t-il prononcer ce terme ? Car s'il voulait dire les choses, il sera obligé de les dire un peu plus vraies tout à l'heure, en parlant du chef d'accusation. Mais Jésus n'est pas un malfaiteur. Jamais de la vie. C'est le bienfaiteur suprême de l'humanité. Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas amené. Alors, puisque vous ne voulez pas me donner les raisons, prenez-le, dit Pilate. La réponse de Pilate est claire. Puisque vous ne voulez pas apporter vos raisons, chargez-vous seul de la cause et jugez vous-même votre accusé selon votre loi, à vos risques et périls. Et les Juifs répondent, ils sont bien obligés, il ne nous est pas permis de tuer personne. Là encore, quel contraste violent, quelle opposition. Tant qu'il était question de juger, on pouvait penser qu'il y avait un examen des faits, une étude de la question, et ensuite un délibéré et une sentence. Mais là non, il ne nous est pas permis de tuer. Ce n'est pas pour juger qu'on te l'a amené, c'est pour le tuer. La cause est entendue pour eux. Pilate leur propose de juger l'accusé et eux, ils n'ont qu'un mot à la bouche. Nous voulons le tuer, tellement la passion trahit chez eux leur dessein de haine. Qui est le plus juste dans cette histoire ? Le peuple ? Le Sanhédrin ? Les sacrificateurs ? Ou Pilate ? Où est la justice ? Nous ne pouvons tuer personne. Ils auraient pu, sans dépasser leurs compétences, infliger à Jésus une peine comme la prison ou la flagellation. Mais comme ils n'ont dans l'esprit que le dessein arrêté de sa mort, ils sont forcés malgré eux de se récuser. Jésus avait prédit. Il avait prédit à diverses reprises qu'il serait élevé sur la croix, crucifié, et cela par la main des païens. En effet, la crucifixion était la mise à mort des Romains, pas des Juifs. Les Juifs, eux, pratiquaient cette exécution par la lapidation. Deuxième étape du procès. Les Juifs n'ont pas voulu donner à Pilate les raisons de leur condamnation à mort de Jésus. Comme ces raisons étaient religieuses, ils se doutaient du fait que le gouverneur romain n'allait pas les accepter. Ils vont donc articuler une nouvelle accusation, politique celle-là. Il s'est fait roi. Le mot est fort, là, important. D'où la question abrupte de Pilate. Es-tu le roi des Juifs ? Question évidemment qu'il adresse à Jésus. Le chef principal de cette nouvelle accusation était que Jésus se disait être Messie roi. Mais c'est une accusation inique devant Pilate. Pourquoi ? L'iniquité de ce procédé consiste à porter devant Pilate une accusation politique, tandis que devant leur propre tribunal, les Juifs venaient de condamner Jésus pour une cause religieuse, celle de s'être dit fils de Dieu. Que pouvait comprendre Pilate face à cette accusation ? Jésus se fait roi, se dit roi. Pilate ne pouvait comprendre qu'une revendication politique qui se dressait contre l'empereur. Et Jésus pose à Pilate une question. La question est la suivante. Est-ce que, quand tu me demandes si je suis roi, tu dis cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi ? Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? Jésus fait ici une distinction très importante. Dans le sens politique qu'un Romain devait donner à ce titre de roi, Jésus voulait simplement le nier. Il n'est pas roi au sens politique du terme. Mais dans la signification théocratique et religieuse que les Juifs donnaient au nom du Messie roi, Jésus, bien sûr, est roi. Jésus se serait bien gardé de le récuser, car il se serait mis en contradiction avec ses propres paroles. La question de Jésus est donc très importante. Quel est le sens de cette royauté ? Alors évidemment, Pilate, qui n'est pas dans les arcanes de la religion juive, donne une réponse avec un peu d'agacement et peut-être un peu de mépris. « Moi, je ne suis pas juif, leur dit-il. Est-ce que je peux comprendre quelque chose à vos subtiles distinctions judaïques ?» Alors, laissons cela de côté. « Ce sont ceux de ta nation, dit-il à Jésus, et ces prêtres qui t'accusent. Réponds nettement, qu'as-tu fait ? Quel est ton crime ?» En réponse à cette question, Jésus reprend la question de la royauté. Il dit, dans un sens politique et païen, « Je ne suis pas roi », c'est ce que signifie ce qu'il dit Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Dans le sens politique, je ne suis pas roi. Dans le sens religieux, oui. Trois fois, Jésus affirme avec solennité, mon royaume ou ma royauté n'est pas de ce monde. Il vient du ciel. La royauté de Jésus, par son origine, par sa nature, par son esprit, par son but, cette royauté n'a rien de commun avec les royautés du monde. La preuve que Jésus en donne, c'est qu'il rejette pour établir cette royauté toutes les armes humaines et terrestres. Il n'agira que sur les cœurs et que par la puissance de la vérité, pas par la force des armes. Pilate conclut des paroles de Jésus que celui-ci s'attribue réellement une royauté quelconque. Il ne comprend pas très bien laquelle, mais enfin, il a suffisamment compris qu'il ne s'agit pas pour Jésus de se faire le rival de César. On peut même penser que Pilate a été sensible à la personne et aux paroles de Jésus. Tu es donc roi. La personne, les paroles et la dignité de Jésus, me semble-t-il, ont impressionné Pilate, et la suite semble le prouver. Jésus répond avec clarté. Tu le dis, je suis roi. Et il explique dans quel sens. Dans quel sens il est roi. C'est-à-dire par le témoignage de la vérité. Jésus affirme donc avec solennité que c'est pour rendre témoignage à la vérité divine, que lui-même est venu révéler. C'est pour cela qu'il est né et qu'il est venu dans le monde. La première expression, évidemment, évoque sa naissance humaine, et le second, sa venue d'en haut, du ciel où il existait avant sa naissance sur la terre. C'est précisément parce que le Sauveur est venu du ciel où il a contemplé la vérité en Dieu, la vérité de Dieu, le Dieu de vérité, c'est parce qu'il a été là avec le Père qu'il peut rendre témoignage à cette vérité. Et il le dit, il l'a dit souvent, je suis venu rendre témoignage à la vérité, je suis venu rendre témoignage à ce que j'ai vu et entendu auprès de mon Père. Il est roi par la vérité, ce qui signifie la seule royauté véritable. On le comprend si l'on entend ce mot de vérité dans son sens le plus profond, le plus absolu, celui qui rattache à la réalité éternelle des choses ce que Jésus a connu auprès de son Père. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. La vérité, prise à son origine, dans la réalité des choses, dans la création, dans ce que Dieu a fait, et dans cette création à laquelle le Fils a été pleinement associé. Quiconque est de la vérité, dit Jésus, écoute ma voix. Être de la vérité, c'est dépendre d'elle, c'est se sentir en harmonie avec elle, c'est se soumettre avec joie à son influence. C'est à peu près synonyme de être de Dieu. Jésus désigne ainsi ce que le Père lui a donné, et ceux-là qui écoutent sa voix et qui le reconnaissent avec bonheur. Par ces paroles, Jésus s'est expliqué clairement sur sa royauté, et il a ainsi pleinement répondu à la question de Pilate. Mais Pilate à une dernière question. Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? Expression qu'on peut considérer de plusieurs points de vue, qu'on peut prendre comme l'expression d'un désespérant scepticisme, où l'homme, naturellement livré à sa simple raison, est conduit par des spéculations et par des recherches qui sont bien difficiles. Pilate est en présence de la vérité et il demande s'il y a une vérité. Il n'est pas le seul à se poser ce genre de questions. Il ferme les yeux devant le soleil et il se persuade que tout autour de lui, tout n'est que ténèbres. Mais au fond, nous ne devrions pas être étonnés de cela. C'est l'effet du péché, c'est l'effet de la séduction de l'adversaire qui est appelé le père du mensonge. Grande question, qu'est-ce que la vérité ? Grande question plus que jamais d'actualité, qu'est-ce que la vérité ? Elle est étonnante cette question par certains côtés, après tant de siècles de progrès dans la connaissance et dans tous les domaines. Vous avez vu le saut considérable que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Même si, humainement parlant, la définition de la vérité est certainement une des plus difficiles à apporter, on pensait, jusqu'à une époque récente, qu'au moins une vérité était reconnue comme telle, la vérité des faits. Que dire si on est en face des faits? Et nous apprenons aujourd'hui, au niveau des informations qu'on nous donne, que nous sommes entrés dans l'ère de la post-vérité. Je pense que vous avez entendu cette expression, assez récente. L'ère de la post-vérité. Alors là, point de suspension, ce n'est pas mon sujet que je puisse développer aujourd'hui, mais je laisse retentir cette question. Qu'est-ce que la vérité à l'ère de la post-vérité? Nous aurons l'occasion d'y revenir probablement. Qu'il est difficile, dans tout ce qu'on entend, de décrypter, de distinguer ce qui est vrai de ce qui l'est moins ou de ce qui ne l'est pas. Pilate, de toute façon, apparemment, a lancé cette question. On peut penser qu'elle est honnête de sa part, mais il n'attend pas de réponse de Jésus à cette question-là. Qu'est-ce que la vérité ? Il sort de nouveau vers les Juifs pour leur dire que Jésus est innocent, qu'il ne trouve en lui aucun sujet d'accusation et de condamnation encore moins. Et il essaie par de plusieurs manières de délivrer Jésus. Se référant alors à cette coutume qui consiste à relâcher un prisonnier à la fête de Pâques, Pilate propose aux Juifs de relâcher le roi des Juifs. Ce que le peuple refuse en réclamant à grands cris la libération de Barabbas, qui était un brigand. Quelle ignominie! Quelle ignominie! Alors, Pilate fait fouetter Jésus. Les soldats posent sur sa tête une couronne d'épines, le revêtent d'un manteau de pourpre, en signe de dérision par rapport à sa royauté, se moquent de lui et le frappent. Dans cet état-là, Pilate amène Jésus, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, il l'amène dehors devant les Juifs, leur déclarant à nouveau qu'il ne trouve en Jésus aucun sujet de condamnation. Voici l'homme. Voici l'homme, leur dit-il. En faisant cela, en prononçant ces paroles, Pilate espérait probablement faire partager aux Juifs ses sentiments de compassion à l'égard de Jésus, les persuader que cet homme qui se laissait ainsi battre, humilier, frapper, bafouer, était bien incapable de provoquer du trouble en aspirant à la royauté. Il n'y avait rien à craindre de ce côté-là. On peut penser que Pilate a espéré, regardez le nombre de fois où il a affirmé, je ne trouve aucun sujet de condamnation à cet homme. Alors on a parlé bien sûr de sa lâcheté, de sa crainte, c'est vrai, il y a les deux. Il y a les deux éléments. Mais ce ecce homo, voici l'homme, cette image émouvante du Sauveur portant son manteau de pourpre et sa couronne d'épines, dans les profondeurs de ses humiliations et de ses souffrances, cette image est restée gravée dans les souvenirs les plus forts de l'Église chrétienne. Et la parole du gouverneur romain a pris une signification profonde dont il ne se doutait pas lui-même. Et je pense raisonnablement, comme le commentateur qui a inspiré mon commentaire d'aujourd'hui, que comme Caïphe, il a en quelque sorte prophétisé sans le savoir. C'est bien l'homme, l'homme idéal, qui se met à la place de l'homme pécheur. C'est cela que Jésus est pour son peuple. Voici l'homme. l'homme dans le sens plein du terme, qui se met à la place de l'homme pécheur. Il est là, devant les chefs du peuple et devant le peuple. Mais Pilate avait compté sans la haine sacerdotale. C'est quand ils le virent que, bien loin d'éprouver quelque compassion, les principaux sacrificateurs firent entendre ce cri sauvage de fureur répété par les huissiers : crucifie, crucifie ! Et quand Pilate leur redit : ben, prenez-le et crucifiez-le. Il ne faut pas penser que Pilate, en disant cela au chef, voulait leur permettre exceptionnellement d'exécuter la sentence sans son autorité. Ce n'était pas cela. C'était au contraire un refus de céder à leurs injonctions, en leur faisant sentir leur impuissance. Ils n'avaient pas le droit de le mettre à mort. Puis encore une fois, ils déclarent Jésus innocent. C'est là le motif de son refus. Troisième étape. N'ayant rien obtenu avec l'accusation politique, les chefs du peuple reprennent l'accusation religieuse en invoquant leur loi. Selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Cette fois, ils viennent à leur motif principal, celui qu'ils avaient développé au Sanhédrin. En entendant cette parole, le texte nous dit que la crainte de Pilate augmente. Pourquoi ? Certainement, d'abord parce qu'il sent qu'on va lui forcer la main pour condamner un innocent. Sa crainte augmente aussi parce que je pense qu'il est impressionné par la personne, par la présence et par la personne de, et par la, les paroles de Jésus, voyant réellement en lui un être surnaturel, un être différent. Et puis, la femme de Pilate lui a fait passer un message, c'est Matthieu qui rapporte cet événement. Elle lui a donné un avertissement au sujet de Jésus. Elle lui a dit qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Alors Pilate est dans la crainte, et sa crainte augmente. On exige de lui la ratification d'une sentence de mort sur une accusation religieuse qu'il ne peut pas admettre, surtout venant d'ennemis acharnés dont il voit évidemment toute la haine et qui change en sa présence de motif d'accusation. Alors Pilate lui dit, mais d'où es-tu, d'où viens-tu? Alors cette question, ce n'est pas de quelle région es-tu originaire, parce que ça, il le savait. Mais sa question signifie, prétends-tu réellement que tu viens du ciel et que tu es le Fils de Dieu? Jésus ne lui répond pas, car il lui a déjà dit tout ce qu'il pouvait lui révéler sur sa personne en lui parlant de la nature divine de son royaume. Pilate ne pouvait probablement pas à ce moment-là en entendre davantage sur ce grand mystère de la piété, mais Pilate en savait suffisamment sur le compte de Jésus pour le libérer. L'orgueil de Pilate, évidemment, est blessé par le silence de Jésus. Est-ce à moi que tu ne réponds pas ? D'où cet échange sur le pouvoir. Et Jésus qui lui dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi, dit Jésus, est plus coupable, commet un plus grand péché. Celui qui l'a livré à Pilate, c'est bien sûr d'abord Judas, le traître, mais là, c'est surtout le Sanhédrin et Caïphe, le grand prêtre, qui agit au nom du Sanhédrin. Oui, eux, ils ont commis un plus grand péché. Dans ces paroles, Jésus, lié, accusé, maltraité et déjà condamné, se pose en juge de ses juges. Et comme s'il était assis sur son tribunal, il pèse dans son infaillible balance, Pilate et le Sanhédrin. Pilate cherche encore et de plusieurs manières à libérer Jésus. Mais les Juifs vont aller jusqu'au dernier degré de l'ignominie et ils vont, entre guillemets, coincer Pilate par leur dernier argument. Les Juifs se mettent à crier, « Si tu relâches celui-ci, tu n'es pas l'ami de César !» César, le mot est prononcé trois fois, il va être prononcé. Alors là, ils sont presque sûrs qu'ils vont emporter la décision. C'est la quatrième et dernière étape. Oui, en effet, à ce moment-là, les Juifs, voyant leur proie prête à leur échapper, mettent de côté toute pudeur. Et ils emploient le moyen odieux de la menace personnelle pour faire plier la conscience du juge. Et sur cette voie, ils se laissent entraîner jusqu'au reniement de leur plus chère espérance. Ils vont même renier l'espérance du Messie roi. Ils s'inféodent à César. C'est la dernière ressource des accusateurs. C'est l'attaque décisive qu'ils savaient devoir être victorieuse. Revenant à leur accusation politique, ils font trois fois retentir aux oreilles du gouverneur le nom redouté de César. Or, qui était César à l'époque? C'était un cruel et soupçonneux dictateur qui s'appelait Tibère, qui était très jaloux de son autorité despotique et qui jamais n'aurait pardonné à un fonctionnaire d'État d'avoir mis en liberté un sujet qui se prétendait roi. Pilate, d'ailleurs, n'avait plus les mains libres dans son administration. Il y a eu déjà plusieurs accusations portées contre lui à Rome. Diverses plaintes ont été portées contre lui auprès du redoutable empereur. Et en fait, après cet épisode-là, il y aura encore d'autres accusations sur Pilate et il finira par être destitué. Évidemment, l'effet de ces paroles des Juifs est immédiat. Pilate amène Jésus dehors et s'assied sur le tribunal pour prononcer la sentence. Mais, encore une dernière fois, il va essayer de faire changer le cœur de ses responsables juifs. Voilà votre roi. Il ne dit plus voici l'homme. Il dit voilà votre roi. Mais il criait hôte, hôte, crucifie-le. Et Pilate leur dit crucifierai-je votre roi? Et que répondent les principaux sacrificateurs? Nous n'avons de roi que César. Vous avez entendu? Excusez-moi, j'ai parlé un peu fort. Hein. Nous n'avons de roi que César. Des sacrificateurs, des huissiers, des chefs, des juifs, qui osent aller à ce point de traîtrise, d'ignominie, de monstruosité. Nous n'avons de roi que César. Parole super hypocrite dans la bouche d'hommes qui haïssaient la domination de l'empereur romain et n'en avaient jamais reconnu la légitimité. Parole tragique par lesquels il renie solennellement Dieu, le seul vrai roi et le Messie qu'il leur avait envoyé. Le procès se termine. Jésus va être livré aux Romains pour être crucifié. C'est Jean qui est le plus complet dans cette description et beaucoup d'éléments importants sont rappelés dans cette confrontation entre ces trois, le groupe des Juifs et des responsables, Pilate et Jésus. Jésus a dit clairement que c'était les chefs des Juifs qui étaient les plus coupables dans ce monstrueux procès. Parce qu'il sera devenu de Pilate. Il a essayé. Mais, bien sûr, la crainte l'a emporté. et il a cédé. Jésus a été condamné. Je termine ce que je voulais partager avec vous ce matin par ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens. Ce sera ma conclusion et les derniers mots de ma prédication. Philippiens 2. Au verset 5, l'apôtre Paul parle des sentiments au fond du cœur et de l'action des chrétiens. Il leur dit « Ayez en vous les sentiments, les pensées qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant comme Dieu, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Voici l'homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Prenons quelques instants de recueillement.